Bonjour tout le monde. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette série de cours, au fond, sur ces deux dernières années. Et donc on termine sur ces flavines. C'est assez paradoxal puisque ce sont des très anciennes familles de cofacteurs. Et ce que je voudrais vous montrer, là aussi, c'était un peu l'esprit des cours, c'était de vous montrer qu'en réalité, on continue à découvrir, et c'était le cas au cours des dernières années, on continue à découvrir des façons nouvelles pour les flavines de faire de la chimie. Alors, je vais parler de sujets que je connais un peu, mais sous le contrôle de Jemel, qui connaît mieux ces choses-là que moi. Donc Jemel Abdand, qui est chargé de recherche au CNRS, prendra la suite pour finir le panorama sur cette famille de cofacteurs. Voilà, Jemel est peut-être le spécialiste français de ces cofacteurs. Oui, il y a toujours cette idée que comme ce sont de vieux machins, c'est plus la peine de travailler dessus. Bon, ça arrive souvent, ça, en science. Et en réalité, la biologie offre toujours des surprises et vous allez en voir quelques-unes. Bon, je suis obligé de redonner ça pour ceux qui ont oublié ou n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, à nouveau, c'est de ces cofacteurs-là dont on parle. Et donc, quand je parlerai du cycle isoalloxazine, ça m'arrivera, je parle de ça. Et comme vous le voyez ici, à côté de la chaîne, sur la chaîne ici, en N10, vous avez des chaînes variables. Je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez ça. Et la deuxième chose qu'il faut rappeler, qui sera utile aussi, c'est que sous cette forme, la flavine est à l'état oxydé et elle est donc capable d'être réduite avec un couplage avec un proton, pour donner cette, appelons-la une semi-quinone, c'est pas tout à fait, c'est une imino-quinone en fait, mais je simplifierai en parlant de quinone. Les quinones sont dénommées lorsqu'il y a des atomes d'oxygène. Et un deuxième électron, deuxième proton, produit cette forme réduite. Donc, on a ici un cofacteur redox qui se retrouve, hein, on l'a dit la dernière fois, à des potentiels qui sont tout à fait adaptés à tout un tas de transformations chimiques au sein de la cellule. Voilà, des potentiels qui sont entre moins 100 et moins 300 millivolts, disons, pour simplifier. Ce que j'ai raconté la dernière fois, c'est je crois que c'est bon de rappeler, puisqu'on va à nouveau évoquer des réactions d'oxydation, c'est que le dogme, c'est que dans toute la très très grande famille de monooxygénases, par exemple, qui dépendent des flavines, le cofacteur clé, c'est cet hydroperoxyde de flavine qui doit s'accumuler ici, donc après réduction flavine complètement réduite, donc ici réduction, vous voyez, à deux électrons de proton, réaction avec l'oxygène moléculaire, je ne rentre pas dans le détail de cette étape-là, mais voilà, jusqu'à il y a très peu de temps, la chimie, c'est le centre réactif de cette molécule pour l'oxygène, c'est ce carbone, ici, qu'on appelle 4A, et c'est pour ça qu'on parle de C4A peroxyde. Et cet hydroperoxyde, qui a à la fois des caractéristiques spectroscopiques, comme on le voit ici, vous voyez, avec cette bande vers 360 nanomètres qui diffère de spectre de la flavine à l'état oxydé ici. La flavine à l'état réduit n'est pas représentée ici, mais elle absorbe très peu. Donc c'est cette entité-là qui a des propriétés de réaction, en particulier c'est un électrophile qui fait qu'un substrat un peu nucléophile peut attaquer cet atome d'oxygène et vous introduisez un atome d'oxygène dans le substrat. Donc la clé, à nouveau, je l'ai dit, hein, la dernière fois, mais je crois qu'il faut le rappeler pour montrer la nouveauté de ce que je vais annoncer. Voilà, la clé pour... à nouveau, c'est une vérité parfaitement établie. Toutes les oxydations par les flavides passent par cet hydroperoxyde. Voilà. Je vais maintenant évoquer la découverte, disons, dans les 5-6 dernières années, de toute une série, en l'occurrence 3, facteurs flaviniques. Et ce qui va être frappant, c'est que c'est la position N5. C'est la position N5 et pas C4A. C'est la position N5 de la flavine qui va faire apparaître une réactivité tout à fait particulière. À nouveau, donc retenez cette flavine oxydée, cet hydroperoxyde. Et ici, je vais introduire un premier système. C'est la possibilité de faire des oxydes, des N-oxydes. Alors ici, vous avez l'écriture soit sous forme d'oxoammonium, soit sous forme de nitrone, en fonction d'où vous mettez les doublets électroniques. Et également de flavine N5 peroxyde, et ça sera le premier sujet. À cette occasion, juste en passant, je vais parler d'une famille de molécules du vivant, de métabolites secondaires, donc de toute une série d'organismes, ici bactéries, champignons, végétaux, animaux, qui sont les polycétides. Ici, vous avez quelques exemples, notamment d'antibiotiques, et je vais parler de cette molécule, l'entérocine, puisque c'est l'étude de la biosynthèse de l'entérocine qui a amené à la découverte de ce N-oxyde. Voilà, alors ça c'est une dia un peu complexe, mais voilà, 2013, c'est l'étude de la biosynthèse d'une série d'antibiotiques ici, et en particulier l'entérocine, avec toute une série d'enzymes appelées ENC quelque chose, ENCC, vous voyez, ENC ABC, ENCM... etc. ENCK, ENCA, je ne rentre pas dans le détail de tout cela, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la protéine ENCM ici est une protéine qui est une enzyme qui fait sur un substrat organique mais fixé à une autre protéine, ENCC. Donc dans la première étape, et là je ne rentre pas dans le détail, la protéine ENCC avec une cystéine fixe cette molécule, et l'enzyme, alors ici qui est représentée de façon simple mais qui a une conformation assez complexe, cette enzyme catalyse l'introduction d'un atome d'oxygène en cette position 4. Et cet oxygène vient de l'oxygène moléculaire. Et une fois que vous avez introduit cet atome d'oxygène, vous avez un réarrangement assez complexe, alors de type Faworski pour les spécialistes de chimie organique. J'ai une slide pour montrer de quoi il s'agit exactement, mais je vais me concentrer sur cette partie-là, qui est sur l'introduction de l'atome d'oxygène ici. En position 4. Voilà, un exemple de réarrangement de Faworski pour ceux qui s'intéressent à la chimie organique. Par exemple, le passage d'un cycle A5 en un cycle A6 en cycle A7 en milieu basique. Donc, vous faites un énolate qui, à cause de la présence d'un groupe partant ici, vous voyez, donne cet intermédiaire qui conduit à un cycle A5. Et... voilà, et c'est un peu cette chimie-là qui est mise en œuvre ici dans cette étape-là. Une fois que vous avez introduit l'atome d'oxygène, vous voyez ce cycle A3 qui déclenche un autre cycle. Bon, ok. Alors, il s'avère que dans ce travail-là, là aussi, une... structure aux rayons X assez intéressante a permis de comprendre un certain nombre de choses. Alors évidemment, c'est une flavoprotéine, sinon j'en parlerai pas à cette occasion. C'est une flavoprotéine et c'est une flavoprotéine un peu particulière parce que, oui, voilà, on le voit ici, la flavine est accrochée de façon covalente à une histidine de la chaîne polypeptidique. Pour le moment, je n'ai montré que des exemples de flavines qui avaient des, qui étaient fixées de façon non covalente dans un site actif de protéines. Il y a de nombreux cas, enfin pas très très grands, mais il y a un certain nombre de cas dans lesquels la flavine est accrochée de façon covalente. Ici, c'est une histidine, je n'en dirai pas plus. Évidemment, de telles modifications confèrent des réactivités probablement adaptées à la chimie qui est mise en œuvre. Mais en tout cas, voilà. Et cette flavine, bon, donc ça c'est la structure aux rayons X de toute la protéine, cette flavine est à proximité d'un, voilà, d'un canal, d'un tunnel, où il est facile de positionner le substrat et de voir que la position 4 que vous allez oxyder va se trouver assez proche de la flavine. C'est toujours la stratégie qui est utilisée par les sites actifs. Ce qui est étonnant dans cette structure, ce que montre cette structure, c'est qu'il n'y a pas de site de fixation du NADPH. Alors ça, c'est un peu troublant, puisqu'il faut que cette flavine soit réduite. Et vous allez voir, nous allons en discuter comment on se sort de ça. Il s'avère que ce substrat est un peu compliqué. Vous voyez, notez que cette molécule-là est au bout. Enfin, au bout de cette molécule, il y a une protéine, c'est ENCC. Donc c'est un substrat extrêmement complexe. Mais les auteurs ont synthétisé cette molécule, qui est un analogue de substrat que vous voyez ici, et qui vient se positionner dans cette partie-là de la cavité, comme on peut le voir ici, avec ce groupement phényl qui reproduit le groupement phényl de la molécule et donc qui vient se positionner exactement dans la poche de fixation du benzène. Et donc, comme vous le voyez ici, cette molécule va, et ça va être un substrat effectivement, va être oxydé sur cette position ici 4, qui est donc très bien placé vis-à-vis de la flavine. Et comme d'habitude, ces informations nous donnent l'environnement du substrat dans cette partie-là. Et là aussi, c'est une démarche que j'ai évoquée mille fois. Donc des études par mutagénèse dirigée essayent de valider l'importance de ces différents acides aminés. Ici, vous avez par exemple, alors vous voyez, ça ne détruit pas totalement l'activité, mais vous avez des pertes d'activité. Si je prends cette tyrosine, vous voyez, vous avez 22% d'activité si vous la transformez en phénylalanine, enfin, etc. Bon. Et cette transformation ici d'un méthylène en carbonyle, ça a cette particularité que c'est une oxydation à 4 électrons. Donc, ce n'est pas une activation réductrice de l'oxygène au sens que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, avec le peroxyde C4A. Donc il faut à la fois une hydroxylation ici et une déshydrogénation pour arriver à ce composé. Donc l'enzyme fait tout ça. L'étude du mécanisme a montré plusieurs choses. La première, c'est que lorsque vous partez de la flavine réduite, puisqu'il faut qu'elle soit réduite pour être active, et par exemple que vous réduisez par du dithionite, un réducteur chimique classique, et que vous introduisez de l'oxygène, ce qui est clair, c'est que vous ne formez ni la flavine oxydée, ni le peroxyde, le fameux peroxyde C4A. Vous formez autre chose. Ici, en bleu, vous avez la flavine oxydée et vous formez ce chromophore violet qui absorbe ici à 460 nanomètres, qui a été montré comme actif et étant pour faire l'oxydation. du substrat, et que c'est un oxydant à 4 électrons par des manips de titration avec des molécules adaptées. Hein. Et donc, ça exclut un peroxyde C4A, ce qui était l'hypothèse privilégiée au début pour faire ces oxydations. Et donc, très rapidement, la proposition qui a été faite est que ce soit un N-oxyde, et en particulier parce que des N-oxydes de flavine, ce sont des composés qui avaient été synthétisés par les chimistes précédemment. Et donc, voilà, vous voyez, en 78, ce sont des années où il y a eu beaucoup de chimie de flavine qui ont été produites. Et voilà, par comparaison avec un spectre de tel N-oxyde. Ensuite, il y a beaucoup plus de choses qui ont conforté cette hypothèse. Et en 2015, donc la digestion de la protéine, l'analyse des fragments peptidiques par couplage HPLC spectrométrie de masse a montré l'existence d'un peptide qui contenait cette histidine 78 qui était fixée à la flavine, qui absorbait à 460 nanomètres, qui vous montre la stabilité du système, et un seul atome d'oxygène sur le cycle isoalloxazine. Alors ça, c'est une diapositive un peu compliquée, mais une analyse par spectro de masse qui montre que vous attendez... Si vous n'avez pas le N-oxyde ici, si vous avez la flavine oxydée, vous attendez un signal à 1328 et à 981 pour la partie ici, isoalloxazine ribitol. Ces deux fragments sont importants à détecter pour savoir si l'atome d'oxygène est bien sur la partie isoalloxazine. C'est ce qui est démontré. La flavine oxydée. Et lorsque vous faites cette réaction, tout l'ensemble de la réaction que j'ai indiquée avec de l'oxygène 16, ce que vous observez, c'est une masse de 1344 et pas 1328. Et pour la partie ici en jaune, c'est une masse de 997. Tout ça démontre parfaitement, lorsque c'est en plus appuyé par une réaction de marquage à l'oxygène 18, vous voyez 2 de plus et 2 de plus ici. Bon, tout ça montre parfaitement qu'il n'y a pas d'hydroperoxyde dans cette espèce, il y a un N-oxyde, et de préférence donc localisé sur cet atome d'azote. Beaucoup de questions sur le mécanisme de formation de cette flavine N5-oxyde. Et une hypothèse, une première hypothèse qui est assez normale, c'est de faire intervenir de façon intermédiaire le C4A peroxyde, puisque c'est celui-là qu'on connaît bien, et pour donner une oxaziridine que vous voyez ici, ce cycle A3 avec deux atomes d'oxygène, qui pourrait conduire donc au N-oxyde. En fait, ce mécanisme a été exclu, je dirais sur la base d'expériences en cinétique rapide, puisque, comme vous le savez, cet hydroperoxyde a des caractéristiques spectrales très particulières et que dans de telles expériences, on devrait voir intermédiairement se former le peroxyde. Enfin, en tout cas, c'était le rationnel de l'étude. Et en réalité, lorsque vous faites ces expériences, vous avez directement la transformation de la flavine réduite dans cette flavine N-oxyde. Donc, il y a une hypothèse d'un intermédiaire différent dans lequel cet atome d'azote est le site de la formation d'un hydroperoxyde intermédiaire. Donc, ça, c'est un cas de peroxyde en position 5 qui est ensuite... par protonation, transformé en oxoammonium, en N-oxyde. Voilà donc les hypothèses actuelles de mécanisme de ce formation de ce N-oxyde. Toujours pour comprendre les mécanismes, donc je rappelle, la flavine oxydée n'est pas capable de transformer le substrat, ici. il faut que la flavine soit à l'état réduit et qu'on lui mette de l'oxygène, enfin qu'on la fasse réagir avec de l'oxygène. Donc, l'hypothèse de travail, c'est que cette flavine réduite réagit avec de l'oxygène pour donner ce N-oxyde, donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Et ensuite, on a ce N-oxyde qui est l'agent ici hydroxylant pour donner cet intermédiaire. À partir du moment où vous avez cette réaction, vous formez intermédiairement de la flavine oxydée, et c'est cette flavine oxydée, et ça a été montré, a la capacité non pas d'oxyder ce substrat, mais d'oxyder celui-là. Et la déshydrogénation ici se fait grâce à cette flavine pour donner le produit final. Le problème, c'est que le système, en tout cas in vitro, alors qu'est-ce qui se passe in vivo, je n'en sais rien, mais tourne, n'est actif que pendant un certain temps. Alors ça, ce n'est pas très très original, hein, des enzymes qui tournent pas éternellement dans un tube à essai, ce n'est pas l'endroit où elle devrait être, cette enzyme. Mais ici, ce qu'on observe, c'est voilà, en fonction du temps, ici on a ordonné la formation du produit, le produit final, et on voit que la réaction s'arrête. Et la réaction s'arrête, pourquoi ? Pour tout un tas de raisons, et en particulier à cause de l'accumulation de ce flavine oxydé, à la fois parce que la réaction avec l'oxygène peut ne pas être très propre et donner directement du flavine oxydé au lieu de la flavine N-oxyde, avec formation d'eau oxygénée, ou parce qu'une fois que la flavine oxydée est formée, la réaction suivante ne marche pas très bien, enfin, etc. Et alors qu'il n'y a pas, donc les gens ont essayé de comprendre comment on pouvait réactiver cette enzyme, mais alors qu'il n'y a pas de site de fixation du NADPH ou du NADH, en réalité, il y a une réactivation par le NADPH et le NADH. Donc ça, c'est un peu troublant et on ne comprend pas très bien pour le moment. Voilà, c'est une sorte de mécanisme sphère externe. En tout cas, il n'y a pas de fixation de NADPH ou de NADH. Mais la flavine oxydée, la flavine, si on regarde la structure, bon là ici on ne voit pas bien, mais voilà, est assez exposée. Voilà, on peut penser que le NADH y arrive quand même. Bon. Alors, ce qui a été. Donc, comment se produit comment se crée cette flavine réduite ? S'il n'y a pas de système spécifique de réduction, il y a eu cette hypothèse, vous voyez, qui est assez récente, c'est qu'au cours de la fixation covalente de l'histidine, je ne sais plus laquelle, 78, vous avez une production de flavine réduite. voilà, la fameuse histidine que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est accrochée à la flavine, a un premier effet de déprotonation au niveau de ce méthyle, et ensuite vous formez. Donc vous voyez, par ce basculement de doublé électronique, vous formez une quinode méthyde qui est très électrophile, ce carbone est très électrophile, et à ce moment-là, vous avez l'attaque de l'histidine 78 sur ce carbone, qui est relativement facile, vous créez donc le lien covalent entre l'histidine 78 et la flavine, et vous vous retrouvez avec une flavine qui est à l'état, enfin un cycloisohaloxazine qui est à l'état réduit. Donc, juste par accrochage covalent et transfert d'électrons, vous avez cette formation, transfert de doublé, vous avez cette formation de flavine réduite. Alors évidemment, il faut qu'il n'y ait pas d'accident après, puisque c'est un truc à un coup. Une fois que vous avez accroché la flavine réduite, elle doit fonctionner des milliers, centaines de milliers de cycles. Bon, cycles qui sont ceux qui nous amènent au bon état redox. Mais comme je vous l'ai dit, il peut se passer un certain nombre d'événements qui nous amènent à la flavine oxydée. Alors, comment tout ça se répare? À nouveau, je répète, la question du NADPH, comment, alors que c'est assez attendu qu'un ADPH ou un ADH soit doué pour réduire une flavine, il y a des centaines de protéines qui fonctionnent comme ça, ici, on se demande bien comment ça se passe, mais rappelez-vous aussi que le substrat intermédiaire des alcools comme ça sont suffisamment réducteurs pour réduire la flavine oxydée en flavine réduite, d'ailleurs, c'est bien la deuxième étape de la réaction. Voilà, donc c'est ça qui est aujourd'hui proposé. Voilà, bon, ça c'est à peu près la même chose. Voilà, donc je répète, donc le bilan, c'est formation d'un N-oxyde par activation de l'oxygène, oxydation de la flavine réduite, et ensuite, cette espèce est capable d'oxyder à 4 électrons pour donner le produit. Ici, je ne crois pas qu'il y ait d'informations supplémentaires. Je ne rentre pas dans le détail. C'est la même chose. Donc, tout ça a été établi en 2015. Oui, là, juste un dernier élément pour montrer plus en détail comment se fait cette hydroxylation. Et l'hypothèse qui est proposée, c'est que une fois que vous avez votre état actif, le N-oxyde, hein, à nouveau, par cette réaction avec l'oxygène de la flavine réduite, vous avez donc cet oxoammonium, vous avez une réaction, ça il y a déjà le OH ici. Donc vous avez cet atome d'oxygène qui attaque cette position 4 pour donner un adduit covalent, enfin c'est l'hypothèse qui est faite, entre la flavine et le substrat, et ensuite, par réaction avec un proton, vous cassez cette liaison azote-oxygène. Donc c'est une attaque du N-oxyde sur ce carbone. Et ensuite, vous avez l'intermédiaire qui est oxydé par la flavine oxydée. Voilà. Alors, jusqu'en 2015-2016, c'était le seul système qui était proposé comme faisant apparaître à un moment donné un N5-oxyde. En fait, il y a eu plusieurs articles, notamment, et vous en avez la liste ici, Donc vous voyez hein, le mécanisme en haut où vous partez de la flavine réduite, il est proposé qu'il y ait un hydroperoxyde en N5 et vous avez un N-oxyde en N5. Donc le premier cas, vous voyez, c'était publié en 2017, une protéine impliquée dans le catabolisme de l'uracile. Mais ici, c'est le peroxyde qui est proposé comme étant l'agent nucléophile pour réagir sur l'uracile. Vous noterez ici que dans toutes ces réactions, cet hydroperoxyde agit comme un nucléophile, alors que le peroxyde en position C4A, le classique, est plutôt un électrophile. Donc par des réactions nucléophiles, vous ouvrez cet uracile et vous faites le produit. Mais quand vous faites ça, en fait, dans toutes ces réactions dont je vais vous parler, le N5-oxyde est un produit de la réaction et il n'est pas clairement indiqué ce que devient ce N5-oxyde et quelle réaction il fait ensuite. Et ça, c'est la même chose avec une protéine du catabolisme du dibenzothiophène. Alors, les dibenzothiophènes, ce sont des molécules qui sont très présentes dans les pétroles, qui contiennent du soufre. Et il y a des enzymes j'en ai déjà parlé il y a très longtemps, il y a des développements biotechnologiques qui utilisent des bactéries qui font cette chimie-là pour désulfurer les molécules qui sont contenues dans le pétrole. Et là, ici, cette protéine est connue depuis très 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 longtemps, et maintenant, ce qui est proposé, c'est que ça soit aussi un N5-peroxyde. Dernier exemple, Une enzyme de dégradation de l'hexachlorobenzène, qui est un toxique qu'on trouve dans l'environnement et qui est très électrophile à cause des nombreux atomes de chlore. Et donc vous avez cette réaction qui conduit là aussi à un début de dégradation du substrat. Et dans tous les cas, vous voyez, c'est le N5-oxyde qui est produit. Pas beaucoup d'explications sur ce que fait ce N5-oxyde après. Il s'avère qu'il y a une structure de RUT A, hein, le premier exemple hein, des dégradations de l'uracile, sous pression d'oxygène. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit une molécule d'oxygène. Et là, je ne rentre pas dans le détail de tout le contrôle de cette molécule d'oxygène par le site et les acides aminés, mais donc très bien placée à côté de l'azote 5. Et on peut imaginer qu'en effet, se forme un peroxyde sur l'azote 5 ici. Simplement, dans cette structure-là, le substrat est également présent, sauf qu'il est de l'autre côté du N5 peroxyde. Ce qui, évidemment... ça ne marche pas pour faire la réaction. Le peroxyde ici ne va pas pouvoir attaquer de l'autre côté. En réalité, et les gens discutent de cela en indiquant que un des avantages d'un peroxyde en position N5 sur un azote, c'est qu'il y a une possibilité d'inversion de configuration parce qu'on est sur l'azote. Et à ce moment-là, vous voyez, on se retrouve avec l'oxygène fixé de l'autre côté du tableau qui peut venir sur le bon côté, simplement par mouvement, par inversion, et se positionner proche du substrat pour pouvoir l'attaquer. Et cette inversion ici, hein, passer d'une face à l'autre pour le peroxyde, ce sont des calculs ici, implique une barrière de 8 kcal par mol, ce qui est évidemment faible, et donc c'est ce qui est proposé. Néanmoins, voilà, les structures pour le moment n'ont pas permis de piéger cet état-là, avec le peroxyde pointant vers le substrat, mais un état dans lequel l'oxygène est de l'autre côté. C'est un peu troublant, mais c'est comme ça qu'on a été interprété. A été interprétée, disons, la réactivité de cette molécule. Et vous voyez, c'est des résultats extrêmement récents. Voilà, donc on se retrouve avec maintenant une plus grande variété d'espèces oxydantes, après avoir longtemps, jusqu'aux années 2015, vécu avec ça, eh bien, il faut rajouter la possibilité d'une chimie basée sur des N-oxydes ou des N-peroxydes. Et voilà, retenez que cet hydroperoxyde, c'est essentiellement un donneur de OH+, hein, c'est un électrophile, alors que celui-ci est un donneur d'OH-, c'est un peroxyde qui est plutôt nucléophile. Et ce N5-oxyde est également plutôt nucléophile. Enfin, visiblement, il peut avoir plusieurs réactivités. Voilà, ça c'est une première chose dont je voulais parler. Je vais parler maintenant d'une deuxième classe de nouveaux cofacteurs flaviniques, qui sont les N5 prényls. Et ça nous amène à une très grande famille, la famille des décarboxylases. La décarboxylation de molécules chimiques, c'est pas une réaction simple. Et il s'avère que les organismes vivants sont pleins de ces enzymes de décarboxylation de molécules organiques. Ici, vous en avez un certain nombre, et notamment ceux de ce qu'on appelle la famille Ubidae. Alors, je serai amené à dire quelques mots, mais très brièvement, il ne s'agit pas de parler de la biosynthèse de l'ubiquinone, mais puisque je vais parler des protéines Ubi qui sont impliquées dans la biosynthèse de l'ubiquinone, il faudra, j'en dirai juste un petit mot. Il s'avère que l'année dernière, on a eu un séminaire entier sur la biosynthèse de l'ubiquinone, donc vous pouvez vous reporter au site du collège pour aller voir ce que c'est en réalité. Voilà, donc vous avez ici toute une famille capable de décarboxyler toutes ces molécules. Cette famille est appelée ubidée parce que dans ces enzymes, il y a la protéine ubidée, l'enzyme ubidée qui fait cette décarboxylation d'un noyau aromatique sur un intermédiaire de la voie de biosynthèse de l'ubiquinone. Et je vais parler aussi de cette molécule, l'acide férulique, parce que la décarboxylase qui conduit à décarboxyler cette molécule a été l'une des protéines qui a été très étudiée pour comprendre la chimie de ces décarboxylases. Voilà, juste vous montrer, donc c'est l'ubiquinone, elle est synthétisée à partir de l'hydroxybenzoate et on introduit tout un tas de groupes pour arriver à la fin à l'ubiquinone. Vous voyez qu'entre l'ubiquinone et cette molécule, il s'est passé tout un tas de choses. On a premièrement rajouté une chaîne isoprénoïque et très tôt, il y a une décarboxylation. Et puis ensuite, il y a l'introduction de groupements. Enfin, on a déshydroxylation, déméthylation de phénol, une deuxième hydroxylation, une méthylation, dernière hydroxylation et méthylation. Et donc, c'est de cette étape-là qu'on parle quand on parle de UBD. Et vous verrez, il faut une deuxième protéine qui s'appelle UBX. Ici, voilà, c'est la même chose. Alors, j'ai montré. Voilà, donc ici, c'est l'acide férulique. Vous voyez, alors il y a plusieurs molécules en fonction de R1 et R2, mais lorsque je parlerai d'acide férulique, ça sera avec ces groupements-là, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la partie carboxylate. Ce sont des molécules qui ne sont pas très complexes ici, mais cette chimie-là, on peut se produire aussi sur des molécules d'une plus grande complexité, par exemple. Ici, donc il y a des molécules extrêmement complexes aussi qui subissent des décarboxylations. Et en tout cas, le premier message, c'est que ces systèmes de décarboxylation dont vous allez voir la grande complexité qui vont nous amener à la découverte d'une nouvelle flavine, ces enzymes de décarboxylation, en fait, fonctionnent par deux. Il n'y a pas une décarboxylase, il y a un système à deux protéines. Et c'est pour ça que dans le cas de l'acide férulique, je parlerai de deux protéines, PAD1 et FDC, et dans le cas de l'ubiquinone, je parlerai de UBX et UBD. Voilà, donc je montrais cette molécule, on va plus loin. Donc c'est un système à deux protéines. Hein. Je vais parler d'UBX, UBD et PAD1, FDC. Parfois d'ailleurs, je vais mélanger un peu les choses. Donc. Là, au nouveau, c'est à peu près 2015, et je vais commencer par le premier système qui a été étudié chez Saccharomyces cerevisiae. Et la première protéine, PAD1, qui était classée comme décarboxylase, en fait, n'a pas d'activité décarboxylase, mais vous comprenez très bien, puisque en effet, il faut deux protéines. Mais ça, c'est ce qui sera découvert ensuite. Donc, PAD1 est exprimé. Lorsqu'on exprime cette protéine dans Escherichia coli, on a un chromophore, que j'appelle X pour le moment, qui est dérivé d'une flavine, ici ce n'est pas FAD dont j'ai beaucoup parlé, mais FMN, et qui a des propriétés, ce chromophore, c'est X, parce qu'il n'a aucune des propriétés que nous connaissions à ce moment-là. La deuxième protéine FDC, qui est exprimée dans coli, elle a une petite activité. En fait, on comprendra assez rapidement, c'est parce que, alors que coli n'a pas de protéine PAD1, il y a un homologue de PAD1 qui est UBX, justement, qui pourra servir un petit peu pour faire fonctionner FDC. Donc FDC, UBX, c'est un peu FDX, PAD1. C'est un détail, mais voilà. Et puis quand FDX est exprimé dans coli, alors on a un autre chromophore sur FDC, avec une caractéristique tout à fait unique. Et quand on a FDC qui est exprimé dans Cauli en présence d'une expression de Padin, à ce moment-là, on a une bonne activité des carboxylases. Et la quantité de chromophore Y ici augmente. Et on a une activité des carboxylases qui montre que, en effet, FDC marche avec PAD1, même s'il peut marcher un petit peu avec UBX. Et puis, in vitro, on constate que si FDC n'est pas très active, en effet, là aussi, pour montrer la nécessité d'avoir les deux protéines, quand on fait réagir PAD1 qui contient ce chromophore X avec une protéine FDC qui n'a rien, on rend la protéine FDC active. Voilà. Donc l'hypothèse de travail, en gros, pour faire cette réaction, à nouveau, hein, la décarboxylation de l'acide férulique, eh bien l'hypothèse, c'est que PAD1, et c'est pareil pour UBX, transforme la FMN, dont vous avez la structure ici, en un cofacteur X, donc prend la FMN et produit un cofacteur X. Et ensuite, ce X passe dans FDC, où il devient Y, et à ce moment-là, la protéine est active. Et ceci est aussi valable pour PADIN FDC que pour UBX, UBD. UBX porte X et UBD porte le chromophore Y. Et donc, évidemment, la question qui s'est posée ensuite, c'est qu'est-ce que c'est que ces chromophores ? Là aussi, vous avez remarqué que ça arrive très souvent. La protéine UBX a pu être cristallisée. Elle avait été exprimée, co-exprimée avec UBX, pas avec PAD1, mais à nouveau, vous vous souvenez que UBX peut faire le boulot de PAD1. Et il y a une structure aux rayons X qui a été obtenue avec une assez haute résolution. Et ce qui a été montré, alors, donc, là aussi, c'est une démarche qui utilise lorsqu'on a des résolutions bonnes, la densité électronique. Vous voyez ici le cycle isoaloxazine, hein, c'est là qu'on voit l'excellente densité. Le cycle isoaloxazine qui rentre parfaitement bien dans la densité. Et il y a une densité additionnelle ici qui fit parfaitement bien avec un cycle. avec un cycle, un quatrième cycle, qui lie l'atome azote 5 au carbone 6. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'on a un adduit isopentényl, et vous voyez, sous la forme d'un iminium. Et ça, évidemment, c'était complètement nouveau. Alors, cet iminium, hein, vous pouvez l'écrire sous forme de différents tautomères, et je ne rentre pas dans le détail. Donc ça, c'est la première découverte dans ce domaine, c'est que vous avez un groupement, ici un adduit isopentényl, hein, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone qui se sont accrochés sur cette protéine. Dans ce travail, là aussi, l'intérêt, c'est que les auteurs ont pu obtenir une structure avec cette modification plus le substrat. Et le substrat se positionne parfaitement bien au-dessus du site isoaloxazine modifié, vous voyez. Enfin, c'est trois images différentes. Et c'est dans le cas d'un substrat, ce n'est pas l'acide férulique, mais c'est un substrat de la même famille. Et vous voyez ici, donc, en jaune, hein, le groupement isoaloxazine modifié. Et juste au-dessus, vous avez le substrat. Et il y a toute une série d'acides aminés ici que j'ai représentés, et notamment un glutamate, je crois, ou un aspartate. Un glutamate qui oui, un glutamate, voilà, qui joue un rôle important dans l'interaction. voilà. Alors, pour comprendre pourquoi cette molécule, enfin cette flavine modifiée, a la capacité de faire la chimie de décarboxylation, il faut voir la chose suivante. En fait, si vous regardez ce groupement-là, hein, où on peut le revoir ici, vous avez une molécule qui a un caractère dilure d'azométhine. En fait, c'est un dipole 1,3. et le carbone adjacent ici est plutôt chargé moins et le carbone ici est plutôt chargé plus. Et nos substrats ici, puisque c'est un carboxylate adjacent à une double liaison, c'est un substrat qui est dipolarophile, qui a une partie, qui a un carbone ici qui est plutôt plus et l'autre carbone de la double liaison qui est plutôt moins. Et donc c'est ça qui fait que on va avoir une cycloaddition, un 3 dipolaire, c'est-à-dire que ce carbone et ces carbones-là vont réagir, alors le plus ici avec le moins, bien sûr, le moins avec le plus, avec les deux carbones de la double liaison. C'est exactement ce qui est proposé ici quand vous voyez cette chimie-là. Vous avez ici l'attaque de ce doublé. Alors, c'est parce qu'il y a un delta moins ici, delta plus, et ici, vous avez attaque, puisque ici, c'est delta plus. Voilà. Donc, cet isopentényl qui est ajouté de cette façon-là en formant cet iminium a cette magnifique propriété unique de faire une réaction de cycloaddition 1,3, donc entre un diène et une double liaison. Voilà. Bon, tout simplement, vous arrivez à cet intermédiaire et à ce moment-là, ça déclenche la décarboxylation, la molécule de CO2 s'en va pour donner cet intermédiaire et je ne détaille pas la suite des opérations. À nouveau, ce sont des réactions qui permettent de libérer le substrat par des transferts de doublés. Mais la clé de l'affaire, c'est à nouveau la formation de cet adduit sur la double liaison, deux liaisons carbone-carbone qui se créent et qui déclenchent la décarboxylation. C'est la même chose. Il peut se passer la même chose avec un cycle aromatique, ce n'est pas simplement une double liaison. Tout à l'heure, ici, vous voyez, j'ai parlé d'un substrat où il y avait une double liaison, mais ça marche aussi, et vous pouvez écrire le même type de mécanisme, avec un noyau aromatique. Ce n'est pas absolument évident, mais voilà, cette double liaison adjacente au carboxylate a aussi une propriété de polarisation de cette double liaison qui fait que vous allez avoir ce carbone ici qui va attaquer là et ce carbone ici qui va attaquer le carbone du cycle isoprène. Voilà. Et une fois que vous avez ça, à nouveau, ces deux nouvelles liaisons carbone-carbone, ça déclenche le départ de la molécule de CO2. Donc, on a cette chimie. La flavine donne un chromophore Y sur PAD1 ou UBX. Cet UBX va dans FDC et donne un chromophore Y qui est absolument essentiel à la décarboxylation. Et le chromophore Y a été identifié comme étant cet iminium. La question, c'est qu'est-ce que c'est que le chromophore X maintenant ? Et c'est là aussi. Des résultats qui ont été obtenus récemment et qui ont été clarifiés. Et en testant toute une série de molécules portant des groupes isoprènes, les auteurs ont démontré qu'il y avait une molécule, le diméthylallyle phosphate, DMAP, cette petite molécule, qui est la seule capable de transformer la FMN portée par PAD1 ou UBX en une molécule qui est le début de la création de ce nouveau cycle. Et vous voyez, ce n'est pas un iminium à ce niveau-là. Donc c'est une forme réduite du chromophore X. Voilà, donc PAD1 ou UBX sont des prényles transférases. Ils transfèrent un groupe prényle à une flavine. Et par ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais cette chimie-là ne marche que si la flavine est à l'état réduite. Donc l'oxygène est un inhibiteur. Si vous faites cette chimie-là en présence d'oxygène, en particulier, vous pouvez vous oxyder la flavine d'une part et elle n'est plus active, ou vous transformez ce produit-là en un radical qui est lui-même inactif. Là aussi, il y a des propriétés d'absorption de lumière qui nous permettent de suivre parfaitement les différentes espèces. Donc, ceci est Y et X, pardon. Vous vous souvenez que Y, il y a une double liaison ici. Et donc, la question, c'est comment on passe de X à Y. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, parfois, je mets UBX, mais ça peut être PAD1. Donc, vous avez le premier intermédiaire, le chromophore X, qui passe sur FDC ou UBD. Donc, UBX est vide. Il faudra le re-remplir de FMN. Vous avez intermédiairement le produit X qui est dans FDC. Et ensuite, pour produire la molécule de FDC, le chromophore Y qui va être actif, vous avez une étape d'oxydation. C'est une oxydation ici. Cette molécule s'oxyde, en effet, c'est une flavine réduite, s'oxyde, mais ce n'est que, il faut bien voir ça, ce n'est que parce qu'elle est à l'intérieur de la protéine FDC que sa chimie d'oxydation est contrôlée suffisamment bien pour qu'elle donne ce produit-là et non pas qu'elle se dégrade autrement. Donc il faut vraiment que cette chimie se passe à l'intérieur de la protéine FDC. Voilà. Et là, je vous montre des travaux qui ont conforté cela, de magnifiques études cristallographiques. Donc ici, vous avez la protéine UBX qui a été cristallisée, vous voyez, à une résolution de 1,8 angstrom, ce qui est pas mal. Alors, tout d'abord, vous avez la flavine avec... donc la flavine, la FMN, hein, pas encore modifiée. Hein. Elle vient de recevoir le DMAP, mais puisque maintenant on sait que c'est ça le substrat, donc vous le voyez ici, hein, diméthylallyl phosphate, voilà, il est là, juste au-dessus de la flavine, hein, avec tout un tas de résidus qui contrôlent son positionnement ici. Et il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites, et notamment une première expérience où les cristaux ont été réduits avec du dithionite, donc la flavine a été réduite, et on les a mis à l'air. À ce moment-là, vous voyez, c'est une étape d'oxydation de cette flavine. À la fois, ce qu'on espère en faisant ça, c'est qu'on réduit la flavine, donc elle va réagir avec le diméthylallyl phosphate, sauf qu'on se met dans des conditions où on risque de créer des entités qui ne sont pas le composé Y. Et en effet, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il se forme, en effet, l'adduit. Vous voyez l'apparition du cycle à 5, 1, 2, 3, non, à 6, du nouveau cycle, et du phosphate qui est libéré, sauf que ce sont des cristaux violets qui absorbent à 515 nanomètres. Donc ce que vous avez fait, c'est que vous êtes allé trop loin dans l'oxydation et vous avez la forme radicalaire dont j'ai parlé, qui est celle-ci, et qui est inactive. Et puis... il y a eu d'autres expériences dans lesquelles cette espèce a été réduite, mais la congélation s'est faite rapidement, très rapidement, en quelques secondes, pour donner des structures à 1,4 angstrom de résolution. Et là, ce que vous obtenez, c'est un intermédiaire dans lequel le phosphate est parti et vous avez la partie diméthylallyl qui est accrochée sur l'azote N5, mais vous n'avez pas encore refermé le cycle sur le carbone 6. Voilà. Et puis, en faisant la même congélation rapide, à nouveau pour éviter des suroxydations, en un temps un petit peu plus long, eh bien, vous voyez que ça s'est refermé. Donc vous avez vraiment une magnifique étude qui montre le mécanisme de la réaction. Et c'est ce que je vais conclure ici. Voilà. Bon, en gros, cet azote 5... qui est bien positionné à côté du phosphate, attaque ce carbone et vous avez le départ du phosphate. Vous créez cet intermédiaire qu'on a vu, vous voyez, dans la congélation très rapide, à une ou deux secondes. C'est cet intermédiaire-là. Et ensuite, oui, ce qui est proposé, c'est que le phosphate ici, oui, voilà, qui a une protonation pardon, de la double liaison qui ensuite permet de faire l'attaque du carbone 6 sur ce carbocation pour fermer le cycle et donner le chromophore, donc le chromophore X. À nouveau, intermédiaire qu'on a vu par Cristallo, chromophore X, et ensuite ce chromophore X va dans UBD ou FDC, et si l'oxydation est bien contrôlée dans UBD, elle donne en effet le cofacteur Y qui est l'agent actif, et si c'est mal contrôlé, ça donne ce radical qui n'est pas actif. Tu veux en dire quelques mots de méthylène ? Voilà, donc le dernier cofacteur intéressant, nouveau, c'est à nouveau sur la position 5, c'est la formation de ces iminiums qui vont jouer des rôles extrêmement importants dans les réactions de méthylation et ça va faire partie du séminaire de Gemmell, car en effet, Gemmell a été un acteur essentiel dans la découverte de ces intermédiaires. Et voilà, je termine ici. Je crois qu'à nouveau, tous ces cours et ces séminaires sur le thème de nouvelles tendances en enzymologie avaient essentiellement pour but de montrer que l'enzymologie est une science en permanent développement. Ce n'est pas une vieille science. Les enzymes sont les acteurs de la chimie du vivant et aujourd'hui, on continue à découvrir, y compris, et c'est pour ça que c'était intéressant de finir sur les flavines, y compris avec des cofacteurs qui ont été très, très étudiés il y a 30-40 ans, qui ont été abandonnés et pendant un certain temps et on continue de voir des nouveautés. Donc ce sont... l'enzymologie est très riche et difficile, hein, mais il faut ne pas mettre des croix définitives sur des domaines. On l'a vu tout au long de ces séminaires et de ces cours. Juste l'année de cours et séminaires n'est pas terminée, d'abord parce qu'on va entendre Gemmell, mais aussi parce que donc le 8 mars... Donc il y aura un colloque dans l'amphithéâtre Guillaume Bunet qui s'appelle Chimie bio-inorganique à Paris. Et je vous invite, le programme n'est pas prêt, mais je vous invite à le regarder en début d'année. Ça aura lieu donc ici, hein, bien sûr. Et je termine donc, pour donner la parole à Gemmell Hamdan, je l'ai déjà présenté, et qui va nous Gemmell étudie toute une série de flavoprotéines et il va nous raconter un peu notamment comment ces iminiums de flavine ont été découverts et ce qu'on peut en faire. Voilà, merci.